Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Éducation, santé, justice et loi. Sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réunis sur une même enseigne.
Réunis sur une même enseigne.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
C'est tout simplement notre métier.
Minutes à l'écoute des programmes d'Alger Chaîne 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir, les amis, de vous retrouver comme tous les dimanches, lundi, mardi sur Alger Chaîne 3 dans Service public pour essayer un petit peu de répondre à vos questions, les questions qui nous concernent au quotidien. Aujourd'hui, nous allons revenir un petit peu et faire un petit état des lieux sur les intempéries qui ont touché l'Algérie ces dernières semaines. Revenir surtout sur la gestion de ces situations d'urgence. Les amis, restez avec nous jusqu'à 11h. On revient juste après la chanson en compagnie de nos invités. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez participer avec nous au 021 48 15 15. À tout de suite.
What we need to survive together.
Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
Ben justement, c'est notre métier, les amis, pour essayer un petit peu de donner un maximum d'informations pour que les citoyens puissent comprendre certaines situations. On va parler, on va revenir un petit peu sur ces intempéries qui ont touché l'Algérie ces dernières semaines. On va faire un petit état des lieux, voir où en est la situation, et essayer de revenir aussi sur la façon la plus sympathique pour gérer ces situations de crise. Ils sont avec nous, Monsieur Kadir Amine, chef de service de communication à l'EDEVAL. Bonjour.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Et nous avons avec nous aussi toujours, ça c'est l'aspect technique de l'EDEVAL, Samir Mesoudi.
L'extranet.
C'est l'aspect technique d'Extranet. Extranet. L'EDEVAL, c'est Monsieur Yacoub. Ben voilà, Karim Yacoub.
Kamel. Yacoub. Bonjour madame, cher auditeur, bonjour.
Ça va, vous allez bien ?
Ça va, et vous-même, madame ?
Ça va. Et monsieur Ben Amzal Souher, notre ami, il est toujours fidèle au poste.
Oui, oui.
Le capitaine Ben Amzal, le représentant de la protection civile. Un plaisir de vous avoir avec nous.
Merci pour l'invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Eh bien, les amis, il faut revenir un petit peu sur cette situation, ces intempéries qui ont touché notre pays ces dernières semaines. Capitaine Ben Amzal, si on devait faire un petit bilan.
Oui, oui, effectivement, la semaine passée, on a eu d'intenses activités en matière d'intervention, notamment des BMS, des vents très violents, des pics qui dépassaient 120 km à l'heure. Mm-hmm. C'est des vents violents. On peut dire c'est... On peut les classer dans les débuts de tempête.
Exactement.
120 km, mm-hmm. C'est début de tempête. Mm-hmm. Alors, 41 wilayas ont été touchés par ces vents violents.
Avec la plupart des wilayas, finalement.
Oui, 41, mm-hmm. c'est notamment les wilayas nord du pays.
Tout à fait.
Les wilayas côtières, proches côtières et les wilayas intérieures. Mm-hmm. Le nombre d'interventions relatives aux intempéries, notamment mm-hmm. les vents violents, mm-hmm. plus de 974 interventions. C'est un nombre très important. Mm-hmm. La plupart, c'est des chutes d'arbres. Près de 589 opérations. Mm-hmm. Aussi, chutes de câbles et panneaux mm-hmm. d'éclairage, 217 mm-hmm. interventions. Des effondrements, soit de murs ou toitures, 140 interventions. Et 28 interventions pour les chutes d'objets, mmh. voilà. Au total, 974 interventions. Pour le bilan des victimes, malheureusement, on a eu un cas de décès sur place, un enfant âgé de 12 ans à Oran, et plus de 29 autres blessés atteints de différentes blessures ont été pris en charge et évacués vers les différentes structures hospitalières. Voilà. C'est le bilan adressé jusqu'à aujourd'hui par les services de la protection civile. Voilà, pour rappeler que malheureusement, jadis, on n'a pas mm-hmm. ce genre d'intervention. On a eu des interventions, les intempéries. La plupart, c'est des épuisements, mm-hmm. des chutes de pluie, de neige, mais mm-hmm. des vents violents. C'est rare, mais il faut s'habituer.
Inscrire ça dans
il faut s'habituer. Parce que mm-hmm. même les vents, c'est parmi les risques majeurs. C'est parmi les risques majeurs qu'il faut traiter, notamment la loi 2404 qui parle des risques majeurs. Et parmi les risques majeurs, c'est les vents violents, mm-hmm. les tempêtes, les cyclones, etc. Mm-hmm. Et notamment le bassin méditerranéen et les...
Avec le changement climatique.
Avec le changement climatique, il y a plusieurs pays qui ont été touchés. Le sud d'Italie, la Tunisie.
L'Espagne, le Portugal.
Voilà. Mm-hmm. Alors, on a été frôlés par cette tempête. Mm-hmm. Mais, alhamdoulilah, ce qu'on peut dire que les mesures prises par les autorités, les pouvoirs publics, aussi l'aspect
l'école, les deux jours, ça a permis
suspendre les études deux jours. Et aussi la fermeture des espaces de loisirs et
des
tentes
publics,
a aidé à minimiser les dégâts. Et aussi l'important, c'est l'alerte. L'alerte a été donnée c'est l'anticipation, parce que quand on a vu le BMS, c'est-à-dire les services de la protection civile ont reçu le BMS aux environs de midi. Mm-hmm. Un BMS émanant de l'Office national de météorologie qui alerte sur un début de vent très violent. On a automatiquement pris des mesures préventives, notamment des recommandations et des consignes de sécurité au profit des citoyens sur la conduite à tenir pour éviter. C'est important. Et aussi,
quand il y a des BMS, il faut respecter.
C'est la prévention.
Si les enfants ne partent pas justement à l'école, c'est pas pour aller jouer,
important.
C'est pour prendre justement ces dispositions.
C'est pour leur sécurité, c'est important. Il faut prendre les choses au sérieux. Mm-hmm. C'est important de prendre les choses au sérieux. Même si on n'a pas par exemple, des dégâts importants, mm-hmm. mais il faut prendre les choses au sérieux c'est des choses imprévisibles. Mm-hmm. Voilà, et pour cela, même la mobilisation massive des unités de la protection civile à travers les wilayas qui étaient concernées par ce BMS, mais l'état d'alerte numéro 1, la mobilisation et la réquisition des moyens humains et matériels, aussi la coordination avec les différents secteurs, notamment Sonalgaz et les services des forêts. Parce que quand on parle des chutes d'arbres et des câbles, c'est automatiquement, il y a une coordination avec ces deux institutions. L'essentiel, tous les moyens ont été mis en place pour parer à ce genre de phénomène. Alhamdoulilah, on espère que c'est un retour d'expérience. En même temps pour remédier notamment les points forts et les points faibles dans la gestion de crise.
Excellent. Et du côté d'Extranet, Samir Mesoudi,
merci.
Où en est la situation, le bilan qui a été établi?
Donc, la wilaya a mis une cellule de veille et d'intervention dédiée aux enfants. Donc, notre entreprise est un acteur actif à notre niveau. Nous avons activé le dispositif opérationnel de veille et d'intervention à la suite de l'émission du bulletin météorologique spécial annonçant de fortes rafales de vent. Sur le terrain, notre action a reposé sur deux piliers essentiels, c'est l'anticipation et l'intervention rapide. En amont, nous avons assuré...
On a besoin justement de cette intervention rapide.
Voilà, tout à fait. Donc, on a anticipé sur le terrain par la couverture proactive et la mise en place de brigades de veille. Leur mission a été d'intervenir en priorité sur les zones identifiées comme à risque.
Des accumulations d'eau pluviale. Vous avez 80% justement d'Alger.
Donc, 80 communes
sur
oui, sur une superficie de 650 km², donc c'est un champ d'intervention qui est assez vaste. Donc, il y a eu mobilisation de toutes nos ressources en moyens humains et matériels. Mmh. On compte plus de 6000 agents qui ont été mobilisés sur le terrain. Deuxième pilier, c'est l'intervention rapide. Pendant et après l'épisode, ces mêmes brigades ainsi que nos équipes sur le terrain sont consacrées à l'enlèvement immédiat de tous les obstacles. Qu'il s'agisse de branches d'arbres cassées ou tout objet encombrant placé ou projeté sur la route. Voilà.
Eh ben, Merci, merci pour le bilan. On va aller du côté de l'Odeval. Kamel Yacoub, où en est la situation concernant justement votre secteur?
Donc, comme il l'a bien dit mon collègue, les EPIC de la Wilaya, sous tutelle bien sûr de la Wilaya d'Alger.
Tout à fait.
Donc, nous, à l'arrivée du BMS, la Wilaya d'Alger a pris ses dispositions. Donc, au départ, on a coordonné par réunion et la mise en place des cellules d'évêques, que ce soit au niveau du siège de la Wilaya et au niveau des circonscriptions administratives, avec mobilisation de l'ensemble des moyens des EPIC intervenant sur la voie publique, y compris ceux des communes, bien sûr, et quelques directions donc des secteurs. Donc on est un petit peu habitué à des grands événements. Notre moyen d'intervention directe, c'était via donc la cellule de la Wilaya. Comme vous le savez bien, on dispose des plateformes de communication.
Tout à fait.
Telles que la brigade des motocycles, qui sont dotées de systèmes GPS. Donc suite au déclenchement donc des rafales des vents, la journée du 28, donc tout le monde a été mobilisé, donc on était tous sur terrain, donc on s'est adapté, c'est-à-dire un réaménagement, par exemple comme nous le Deval, principalement l'activité elle se fait deux jours, donc on a un petit peu fait des réaménagements pour équilibrer les équipes, donc en 3 fois 8, 24 sur 24, 7 sur 7, puis plusieurs BMS ont été annoncés successivement. Donc l'intervention sur terrain de notre organisation, donc on a des unités opérationnelles au niveau de chaque circonscription administrative. Donc les interventions étaient directement sur terrain selon l'ordre de priorité. Parce que compte tenu de ces rafales de vent, donc la première urgence était de libérer les routes qui ont été bloqués suite à des chutes d'arbres. Ou...
C'est ça aussi. Hein.
Oui, c'est libéré d'abord pour faciliter un petit peu les interventions. En second plan, donc c'est les arbres qui sont un petit peu sur les talus, sur des coins isolés, qui ne présentent pas un danger direct par rapport aux citoyens. Notre premier bilan pour la nuit du 28 au 29, donc on a enregistré 653 interventions. Pour le deuxième bilan, donc pour les journées allant du 29 au 1er février, donc les autres BMS du week-end, on a enregistré 975 interventions, donc soit un total de 1628 interventions. Alhamdoulilah, donc toutes les opérations ont été rapides, prises en charge rapides, avec efficacité. Jusqu'à ce jour, on est en train de travailler toujours, on est en train de nettoyer, bien sûr, évacuer les déchets.
C'est ça aussi le travail, de l'Odeval est extranet, c'est après, surtout après.
La quantité là enregistrée, c'est-à-dire moi, si je donne, parce que principalement, c'est des arbres qui relèvent un petit peu de la gestion des communes. Parce que nous, les Deval, on est un petit peu dans les alignements des milieux urbains, périurbains. C'est-à-dire, si je prends même ce chiffre par rapport au patrimoine végétal géré par Deval, qui représente 118 870 arbres d'alignement, ça va nous faire un pourcentage de 1,36. Donc, si on prend le patrimoine végétal de la ville arboré, de la wilaya d'Alger, donc ça sera du 0,
donc ça va.
Donc ça va. On s'attendait au pire, mais dans l'ensemble, on dit alhamdoulilah.
Plus de peur que de moi.
Exactement. Voilà. Ben, justement, comment on fait pour essayer un petit peu d'être, on va dire, efficace sur le terrain, extranet par exemple, pour être efficace, vraiment pour gérer tout de suite. Est-ce que vous essayez un petit peu de rentrer en contact avec la protection civile, voir où en est la situation, voir quels sont les points noirs pour pouvoir justement intervenir? Et est-ce que l'intervention se fait rapidement?
À la base, nous, on est beaucoup plus proche du citoyen parce que notre mission ici, elle est double. Elle est cruciale pour la sécurité publique. D'abord, face à la violence des vents et rafales de vent, nos équipes ont été mobilisées pour stabiliser de 1 les bacs parce que les rafales de vent était très fort, donc
c'est pas évident.
Un déplacement de bac.
Ah oui.
Donc un bac, il est lourd, que ce soit de 240 litres, 660, peu importe le volume de bac, surtout s'il est rempli, donc ça peut être un risque pour les citoyens. Donc stabiliser les bacs à ordure et ramasser tous
Comment
les déchets.
Comment vous avez stabilisé? Ils ont été enchaînés?
On a immobilisé les agents et on était sur le coude. C'est-à-dire que les bacs, il y a soit les abris bacs, soit les bacs étaient dans des cités, des endroits. On a changé les endroits.
Tout à fait.
Donc on a, on a essayé de sécuriser un maximum de bacs. On a 31 communes. Et on a des chefs de parc, des chefs de communes, des chefs d'unité, et une cellule de crise qui marchait H24. Donc c'est pour ça. Donc et ramasser tous les déchets éparpillés afin de garantir la sécurité des automobilistes, bien évidemment, et des citoyens. Ensuite, notre priorité absolue est restée, bien évidemment, la prévention des inondations. Comment faire cette prévention ? Nous intervenons sans relâche pour dégager les abords des avaloirs.
Oui, tout à fait.
Donc, un déchet non collecté en période d'intempérie est un déchet qui finit par boucher le système d'évacuation.
Irréversible.
Voilà, provoquant des crues urbaines évitables. Donc, pour faire court, notre but, c'est de se rapprocher du citoyen. Donc, depuis septembre 2025, l'unité de communication de l'EPIC Extranet a déjà engagé 546 campagnes de sensibilisation par rapport au blocage des avaloirs. Que ce soit par le porte-à-porte, dans les écoles ou par des commerçants, nous martelons le même message. C'est-à-dire la lutte contre le jet anarchique et le premier rempart contre les catastrophes naturelles. Nous restons sur le terrain et maintenons ce dispositif de vigilance jusqu'à l'amélioration totale des conditions météorologiques.
Bah, j'imagine.
Donc, 546 campagnes de sensibilisation. Donc, nos 456 campagnes de sensibilisation menées depuis septembre visaient précisément ce but, préparer la population à ces épisodes de météo.
Donc, il y a un travail qui est fait bien avant.
Bien avant. Donc, nous passons d'une gestion de la propreté à une gestion de risque majeur, où le comportement de chaque habitant peut sauver le quartier d'une inondation.
Ben, j'imagine, Capitaine Hamzal, Ben Hamzal, voilà, Capitaine Ben Hamzal, l'anticipation est très importante.
Oui, l'anticipation dans ce genre de situation est très importante. Mais il faut rappeler qu'il faut, c'est toute une stratégie. C'est toute une stratégie établie, par exemple, par les services de la protection civile pour faire face aux risques majeurs, notamment quand on parle des catastrophes naturelles, les inondations, les séismes, voilà, les tempêtes. C'est un fait nouveau. Voilà, il faut se préparer. La préparation se fait par des plans, une planification préventive. Ça veut dire l'étude des risques, parce qu'il faut, rappeler que chaque région de notre pays a ses risques propres à la région.
Oui, c'est spécifique.
Oui, c'est spécifique. En général, les régions nord, ils sont touchés par les séismes, les inondations,
les vents violents
qu'on a dû subir la semaine passée. Alors, toute une préparation. L'aspect préventif. L'aspect préventif, c'est-à-dire, comme j'ai dit, l'étude des risques, aussi la sensibilisation et la prévention au profit du citoyen. Ça veut dire que des campagnes de sensibilisation sont menées au long de l'année.
Mais ça se passe comment, par exemple, pour les campagnes de sensibilisation?
Oui, c'est un plan établi par la Direction générale de la protection civile. Et aussi, il y a des plans de sensibilisation à travers les wilayas. Selon la spécificité de la wilaya, sur les risques majeurs, aussi la conduite à tenir face à ces
c'est
risques.
C'est très important, justement.
Oui, le respect des consignes et des recommandations émises par les services de la protection civile. Le but, c'est créer instaurer une culture préventive. Une société résiliente face aux dangers des risques majeurs. Et un autre volet, c'est le volet opérationnel. Le volet opérationnel, ça consiste à former les équipes intervenantes sur les différentes situations. Il ne faut pas oublier que au long des années, maintenant des années, les services de la protection civile ont opté pour les équipes spécialisées, soit par exemple, si on prend par exemple les plongeurs, mm-hmm. les brigades canines, les brigades d'intervention au milieu périlleux, aussi les brigades liées à la radioactivité, mm-hmm. plusieurs spécialités sont nécessaires pour ce genre de situation. Aussi, parmi les mesures, aussi la mise à jour des plans hors sec. Les plans hors sec, mm-hmm. Plans de gestion de secours au niveau des wilayas, au niveau des communes, il est important la mise à jour et aussi les manœuvres de simulation. Mm-hmm.
Vous faites des simulations?
Oui.
Toute
l'année, on fait des manœuvres de simulation sur des risques majeurs, notamment les inondations, les séismes, les feux de forêt, etc., avec la participation des différents modules qui mm-hmm. sont concernés par...
Est-ce que vous essayez un petit peu d'impliquer le citoyen? Faire des journées portes ouvertes pour voir comment ça se passe,
oui,
le travail.
Effectivement.
Essayer de donner justement cette petite graine pour qu'il soit un peu plus responsable quand il y a un danger. Parce qu'on a tendance à aller vers le danger, c'est incroyable.
Effectivement. Si on voit, par exemple, depuis 2010, on a commencé, les services de la protection civile ont commencé, c'est-à-dire dans le secourisme de masse, mm-hmm. on a impliqué les citoyens, surtout pour le geste qui sauve, notamment pour un secouriste pour chaque famille.
C'est pas mal.
Oui, un secouriste, mm-hmm. c'est important.
Est-ce que vous continuez à le faire?
Oui, on arrive à... jusqu'à cette fin d'année, plus de 190 000 citoyens formés depuis 2010.
Donc la formation reste ouverte.
Donc
on est tous concernés.
C'est des formations qui sont dans le programme. Mm-hmm. Le programme annuel, il y a des formations...
Ça, c'est pour les premiers gestes.
Le geste qui sauve et... On part au-delà. Après,
c'est bien d'inviter aussi les enfants pour qu'ils puissent voir.
Oui.
Essayer de leur inculquer pour qu'ils soient un citoyen modèle quand il y a quelque chose, quand il y a un danger, c'est pas la peine d'y aller, c'est pas la peine de sortir, par exemple, quand on est.
Oui, c'est des choses qui se font actuellement. Alhamdoulilah, quand on voit, même si on voit par exemple les intempéries la semaine passée, on a vu une adhésion du citoyen dans les recommandations et les consignes de sécurité. Alhamdoulilah, on n'a pas eu une seule victime, malheureusement, mais c'est un bon résultat. Mm-hmm. Quand on voit par rapport à d'autres qui se passent à travers le monde, ou des inondations ou des vents violents, on voit des chiffres énormes de dégâts mm-hmm. humains et matériels. Alhamdoulilah, ça veut dire que les pouvoirs publics ont réussi le pari, notamment la semaine passée, parce que c'est impressionnant. Quand on voit des vents de 120 km à l'heure, c'est impressionnant. C'est pas facile. Et même la gestion, la gestion de l'information.
Justement, on a eu très peur par rapport aux arbres, le déval. On a eu vraiment peur. Est-ce que c'est normal qu'un arbre, justement, puisse comme ça se déterrer et aller.
Point de vue biologique, c'est un comportement normal. Mm-hmm. C'est-à-dire compte tenu des changements climatiques, l'intensité des vents. Donc, les arbres, si on va parler d'arbres, les arbres qui ont été touchés principalement, c'est selon les espèces.
C'était un petit peu le point noir.
Le point noir.
On avait vraiment peur de mettre sa voiture devant un arbre.
C'est des précautions à prendre, justement, mm-hmm. éviter les stationnements des voitures mm-hmm. sous les arbres. Mais la majorité des arbres mm-hmm. qu'on a traités, nous, c'est-à-dire suite à nos interventions, mm-hmm. c'est des arbres soit âgés, soit des arbres qui avaient déjà un problème de santé, mm-hmm. C'est-à-dire déjà qu'ils étaient, par exemple, le tronc fissuré ou sans écorce. Donc, ils étaient fragilisés, vulnérables déjà.
Un arbre âgé, c'est un arbre qui tient.
Oui, mais ça dépend, ça dépend. Parce que je vais vous donner des exemples.
D'accord.
On peut avoir des grands arbres, par exemple, par proximité des habitations. Mm-hmm. Donc, l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la lumière. Donc, la croissance, sa croissance, elle est un petit peu mal formée. Parce qu'il cherche en allant vers la lumière. Mm-hmm. On trouve, par exemple, ces dépens sur les hauteurs d'Alger. La cime, elle est déviée vers la lumière.
Tout à fait.
Mm-hmm. Donc, le centre de gravité de l'arbre vertical, il est un petit peu dévié.
Incliné, ouais.
Donc, en rajoutant les pluies.
Mm-hmm. Donc, qui risque un
qui
petit
donne
peu de...
un sol saturé en eau.
Fait,
donc seul. Avec une vitesse, disons, à partir de 60 km, rien risque.
D'accord.
Donc, on a obtenu
de
des vents de 100,
il faut faire 60 attention.
Déjà, c'est un risque. On peut avoir des ruptures, soit des racinements, soit des cassures
des
de tronc, soit des ruptures, soit, la partie, soit les branches. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, moi, j'étais un petit peu inquiété. Je me suis dit 120 km, je m'attendais à un bilan un petit peu...
plus lourd.
Mais, alhamdoulilah, il y avait un travail qui s'est fait, c'est-à-dire déjà en amont. Parce que pourquoi? Quand moi, j'analyse les chiffres, je peux vous citer par exemple le bilan 2025. À travers les campagnes de rattrapage, les grandes campagnes de rattrapage initiées et lancées par la wilaya d'Alger, y compris les campagnes qui se font au niveau des circonscriptions administratives. Par exemple, nous au Déval, on fait un travail continu durant toute l'année.
Mais j'imagine.
Si je vous donne l'entretien, par exemple, des arbres, même en dehors du patrimoine géré par le DEVA, c'est-à-dire pour le compte des communes dans des quartiers ou de sur des organes de gestion.
Tout à fait, qui nécessite une gestion particulière.
Dans ces campagnes, donc on éradique déjà le danger. Durant toute l'année, tout arbre présentant un danger public, il est systématiquement éradiqué.
Ah, très bien.
Donc les
vous faites quand même un travail sur ce...
De préventif, bien sûr.
C'est
donc les communes signalent, il y a la direction des forêts de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, qui accordent les autorisations nécessaires, eux dévalent ou les services des forêts, on intervient directement pour éradiquer. Donc en 2025, on a fait sur le bilan annuel 22 000 arbres qui étaient déjà fragilisés, vulnérables.
Donc,
c'est-à-dire déjà,
qui étaient enlevés
déjà avant
la catastrophe.
Donc on a
c'est
anticipé, c'est-à-dire le travail, et c'est ce qu'on fait, on continue durant toute l'année. Et une exception, on la traite d'une manière exceptionnelle. Donc, vos idées, on a fait un petit peu réaménagement de nos équipes en 3x8, c'est-à-dire l'équipe de jour, les étaler sur des interventions nocturnes, donc afin d'avoir une intervention rapide et efficace avec tous les moyens appropriés.
Ça, c'est très bien. Excellent plan.
Oui, oui.
Monsieur Benhamzal.
Oui, même je peux ajouter qu'au niveau de la Direction Générale de la Protection Civile, une mobilisation massive, notamment de la cellule de communication au niveau de la Direction Générale. Même les médias étaient au rendez-vous, même des lives qui se faisaient presque une heure, chaque heure, pour donner un point de situation sur...
Pour rassurer aussi.
Pour donner les recommandations et les consignes de sécurité. Aussi, situation sur le terrain. Il faut pas oublier qu'au niveau de la direction générale, on a une cellule de veille nationale. Aussi, elle est équipée des applications et numériques qui nous permet de mieux voir la situation à temps réel. Même le décideur peut à travers la situation à temps réel donner les instructions nécessaires pour la gestion des opérations des services de la protection civile. Ça veut dire alhamdoulilah, c'est-à-dire tous ces moyens matériel, c'est-à-dire la direction générale est dotée de moyens matériels et aussi humains qui sont bien rodés dans ce genre de situation. Même avec l'Office national de la météo, on a une ligne directe. Ça veut dire il y a une liaison.
C'est vrai que vous travaillez en
Oui. Il y a une ligne directe avec ce service qui est très important. Parce que c'est à travers ça que l'anticipation se fait. Ça veut dire les mesures rapides et la préparation.
48 heures avant. 24
oui,
heures.
Oui, c'est très important. Même on peut voir pour une semaine des prévisions pour une semaine, c'est important pour même pour gérer le personnel.
Ce n'est pas une science exacte.
C'est pas une science exacte.
Le climat change, le temps change.
C'est vrai pour.
Mais on a quand même des informations.
Oui, on a des informations. Ça veut dire l'alerte est donnée à temps. C'est important. Quand on donne l'alerte à temps aux citoyens, au pouvoir public, c'est important pour prendre les mesures nécessaires avant l'arrivée de. Ça veut dire avant. C'est une façon de gérer la situation, parce que c'est une situation d'urgence. Mmh. Voilà.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un nouveau volet. Il y a. Oui, même qui est rentré en jeu même, et qui a changé un petit peu la stratégie. Même, maintenant, tout doit être basé et structuré selon certaines normes.
Même, par exemple, si on voit au côté législation, la loi 2404, elle est importante. La loi portant sur les règles de prévention et d'intervention et la réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. Même les textes d'application, les décrets exécutifs. Par exemple, si on voit ces plusieurs textes, par exemple, elle parle de la planification, la gestion, la préparation, les missions, les modalités, les conditions dans le domaine des risques de catastrophes. C'est important. Ça veut dire qu'il y a une continuité entre l'évolution des risques et aussi les législations qui concernent ces risques. C'est important. Parce que quand on a l'aspect juridique, on peut faire mieux. Et aussi, chaque institution a ses responsabilités. Ils sont bien clairs, ils sont bien déterminés. Et notamment, le plus important, c'est la coopération. Et la coordination.
Et ça donne le meilleur jour,
oui, parce que tant que là il y a une coopération, une coordination entre les différents secteurs, on peut réussir à minimiser les dégâts qui peuvent survenir face à ces fonds violents et aussi les inondations. Mais ce que je veux dire aussi, que il est important d'être très vigilant. La vigilance, c'est important.
Exactement.
Même il y a un BMS avant qui a annoncé
de
50-80 qui c'est 24 heures. Mais il faut faire très attention pour les jours à venir. Il faut être mobilisé.
Il y a une certaine instabilité en ce moment.
Il faut gérer, il faut être très prudent. Même au niveau du service de la protection civile, on surveille même le bassin méditerranéen sur les changements climatiques qui surviennent. Il est important d'être préparé en cas d'éventualité par la mobilisation des moyens
et les
consignes de sécurité. Il est important de respecter.
En parlant de consignes et de respect, je vais revenir un petit peu à Extranet. Là, il y a un travail qui est fait. Vous avez des données en ce qui concerne justement cette nouvelle situation. Donc, vous avez changé un petit peu votre stratégie.
En ce qui concerne les campagnes de sensibilisation par rapport à l'équipe Extranet, déjà la propreté est une responsabilité partagée. En parlant de BMS, notre rôle est d'assurer une collecte régulière et efficace.
C'est ça surtout.
Et nous le faisons, heureusement. Mais en période de BMS, un simple...
Ça se passe comment justement en période de BMS? Ça, c'est très très important. D'habitude, vous avez 4 passages par jour.
4 passages,
justement. Vous essayez un petit peu d'anticiper. C'est pas tout le monde qui respecte les horaires, malheureusement. Donc, vous essayez un petit peu d'anticiper et de faire des allers-retours.
C'est des allers-retours, bien évidemment. C'est pour ça qu'on a mis en place les campagnes de sensibilisation. Durant l'année de 2025, on a enregistré plus de 3000 campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire une moyenne de 9 à 11 campagnes de sensibilisation par jour.
Les campagnes ont apporté leurs fruits.
On a enregistré une certaine progression par rapport au respect des
ordres.
Une amélioration, heureusement, parce que on a bien évidemment reçu du matériel de la part de la tuteur de la ville, un nouveau matériel, bien évidemment, heureusement.
Est-ce qu'il y a eu un certain respect aussi de la part des citoyens?
On a remarqué, parce qu'on fait une sorte d'étude socio-comportementale. Donc quand on côtoie le citoyen chaque jour, on a une équipe de 16-17 bonhommes, pour la majorité issus de la fac de journalisme. Donc, en quelque sorte, c'est des enquêteurs.
D'accord.
Ils font un travail de sensibilisation et en même temps, c'est des enquêteurs. Vous avez des citoyens dans les cités, ADA, les écoles,
donc
les universités.
Un petit peu le tour,
on a plusieurs thématiques par rapport à.
Porte à porte,
on est aux écoles, aux universités. C'est un contact direct avec les citoyens, avec la ménagère, sur plusieurs sujets, le respect des horaires, la collecte, le tri sélectif, le gaspillage alimentaire.
Surtout
en sachant que on est sur le porte-à-porte. Donc voilà, donc. Je profite pour lancer, si vous le permettez, un appel à la civilité et à la vigilance de nos concitoyens, car pas seulement, surtout par rapport au BMA, j'y reviendrai par rapport à l'autre.
Oui, par rapport au BMA, justement, ma question, comment vous faites justement quand il y a des gens violents, est-ce que vous donnez comme conseil
On essaie de mettre en place des consignes, car comme je l'ai dit, la sécurité est l'affaire de tous. En cette période de forte pluie et de vent, donc respectez les horaires de collecte.
Consommez moins pendant ces périodes.
Voilà. Ne sortez pas, par exemple, vos sacs trop tôt.
Il ne faut pas générer beaucoup de déchets.
Pour qu'ils ne soient pas déchirés, emportés par le vent.
C'est vrai,
donc, respectant.
C'est très, très important. Fermez. Quand on sait qu'ils peuvent justement se mettre sur un passage... sur les avaloirs, etc. Donc,
bien sûr.
C'est un risque majeur. Donc, en plus des vents, on aura des inondations.
Des inondations.
Il y en a eu des cas d'inondations par rapport à ça. Il faut l'expliquer par A plus B. Donc, gardez. Gardez ce que vous avez chez vous et respectez les horaires.
Les horaires, en sachant qu'on a 4 rotations. Donc on a,
et est-ce que vous respectez ces rotations?
Majoritairement, oui. Majoritairement. On a.
On peut se permettre, vous êtes là, on va vous poser des questions.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a un respect et tout. Donc, il va falloir aussi...
Il faut bien évidemment, bien sûr, fermer bien les sacs. Parce que le sac, il est fait pour mettre dans le bac, pas à l'extérieur, pas devant. Donc, un sac bien fermé est un sac qui ne finira pas dans les avaloirs.
Donc, c'est bien d'avoir aussi un sac, un vrai.
Un sac.
Et non pas les sachets qu'on donne dans les... Superette et autres.
Oui, c'est un sac bien fermé. Et en plus, c'est pas vraiment cher, un sac.
Sac poubelle.
Sac poubelle. Et bien évidemment,
on revient à l'ancienne avec les petits bacs, et comme ça, vous allez verser directement.
C'est
les poubelles qu'on a à la maison.
Faut savoir que chaque type de cité a ses propres caractéristiques. C'est pour ça qu'il y a le département technique. Faut savoir qu'on a à l'extérieur, qu'il y a des ingénieurs. C'est une étude qui se fait pour mettre en place des bacs.
Donc il y a une étude sociologique par rapport au comportement de chaque personne.
Une étude sociologique, une étude pour savoir combien le citoyen génère de déchets.
Tout à fait.
Donc quand on est à une cité de 500 habitants, 500...
Ouais, la densité.
C'est pas la même chose. Par exemple, je prends l'exemple de Sidi Abdallah qui est un grand pot de 500 000 habitants en plus. Donc c'est pas le même type de déchets, c'est pas le même nombre de bacs qu'on met en place. Par rapport à une autre commune qui est Intaya, bien Al Marsa, puisqu'on a 31 communes, donc réparties sur 8 circonscriptions administrées.
Ça diffère, chaque commune diffère.
Donc les communes côtières, c'est pas pareil. Oui. Donc voilà, la quantité de déchets générés, donc faut mettre en place un dispositif, faut mettre des bacs spécialisés pour savoir si la quantité de déchets générés sera, les bacs, est-ce qu'ils seront, suffisants pour être à la hauteur et voilà. Donc
il faut combien de bacs par personne?
Ça dépend. Si vous prenez par exemple, généralement une famille, elle est dotée de une moyenne de 5 personnes. Donc si vous calculez le type de déchets, par exemple 800 et 1,2 kg de déchets, donc c'est mathématique.
Quand on est 5, on génère
environ
1,2 kg.
Entre 800 et 1,2 kg. Donc, c'est environ 4 kg par famille.
Par famille, voilà. Très bien. Par jour.
Par jour.
Donc, il faut à peu près un bac pour une vingtaine de familles.
Un bac de 660, bien 770 litres. Et le volume, bien sûr, évidemment, il change par rapport au type, la typographie, tout ce qui s'ensuit.
J'imagine. C'est tout un travail, finalement.
Bien sûr, c'est pas seulement mettre un déchet dans
Exactement.
Un bac. C'est...
Ramener un bac et mettre...
Bien sûr, il y a la collecte qui se fait, il y a l'itinéraire à suivre par rapport au centre d'enfouissement technique, il y a la prise de temps, le carburant, donc c'est... c'est tout un travail qui se fait derrière.
Ben, justement, Samir Messaoudi, vous avez l'aspect technique. Comment vous faites pour gérer ces situations d'urgence maintenant qu'on a d'autres, on va dire, d'autres aspects, d'autres paramètres qui nous poussent à réfléchir encore davantage?
D'accord. Pour ce qui est des situations d'urgence, nous faisons le tout pour évacuer les déchets. Nous multiplions les rotations afin d'évacuer les déchets. Et nous mettons en place des brigades d'intervention et de veille afin d'évacuer tout obstacle ou objet encombrant qui pourrait se retrouver sur la chaussée et qui pourrait bloquer ou gêner la circulation des eaux pour leur évacuation, qui pourrait générer des inondations. Voilà. Donc nous insistons sur la multiplication des efforts sur le terrain par la mobilisation de tous nos agents et de toute notre flotte. Voilà.
Le Deval, Karim Yacoub, parce que Kamel Yacoub, je ne sais pas pourquoi je vous ai donné Karim, c'est Karim qui est resté, c'est incroyable. Kamel Yacoub, pour le Deval, est-ce que vous avez changé un petit peu votre plan d'action? Est-ce que vous allez réfléchir doublement au choix justement des arbres, surtout que vous êtes spécialisé un petit peu dans les arbres d'alignement et tout, mais est-ce que vous allez réfléchir autrement? Est-ce que vous allez choisir d'autres espèces, des espèces beaucoup plus solides? Est-ce que c'est possible d'abord de le faire?
Déjà, nous, au Devant, on le fait, ça fait depuis des années. C'est-à-dire, je peux vous citer les chiffres. Moi, sur, par exemple, 6 millions de mètres carrés d'espace vert au niveau des 57 communes. Deval intervient sur le territoire de la wilaya d'Alger. Donc, au niveau des 57 communes de la wilaya d'Alger, sur 6 millions de mètres carrés d'espace vert, ça compte, on dit même espace vert de ville urbain. Donc, ces espaces englobent déjà des arbres. Donc, l'élément structurel principal, c'est des arbres, des arbustes, ainsi de suite. Si je prends, par exemple, l'alignement de ville, ce qu'on gère, nous, Deval, c'est 118 870 arbres, parce qu'on a enregistré comme dégâts dans notre patrimoine. Et il y avait 20 ficus et 18 palmiers, uniquement. Donc, c'est minime, c'est tout.
D'accord.
Déjà,
vous avez fait du bon boulot.
Bien sûr, déjà, au départ. Alors, quand on prend, par exemple, pour un aménagement spécifique d'un endroit. Donc, on fait déjà au préalable une étude. Quelle est l'espèce qui sera la mieux adaptée? On étudie tous les paramètres intervenants au niveau stationnel de cet espace et on fait le choix des végétaux appropriés. Donc, dans l'ensemble, ce qui concerne le Deval, alhamdoulilah. Maintenant, je peux vous citer des cas. Dans des communes ou des quartiers, des fois, les citoyens prennent des initiatives dans les campagnes de reboisement, les associations de quartier. Là, justement, il y a un travail à faire.
Et justement, ces gens qui plantent, ils ont des jardins.
Donc, il ne faut pas planter n'importe quoi.
D'accord.
Justement, il ne faut pas planter n'importe quoi. Nous,
est-ce que vous essayez de faire des campagnes pour expliquer aux citoyens comment planter, quel arbre choisir?
Par exemple, quand on est associé à des campagnes, donc on donne le bon conseil pour le choix, déjà au préalable, des bons espaces par rapport à l'endroit.
Et est-ce que vous créez vos propres campagnes pour essayer un petit peu de rentrer en contact avec les citoyens?
Nous, on est plus dans l'opérationnel. C'est-à-dire, on est sollicité via donc d'autres EPIC ou bien d'autres directions, telles que la direction de l'environnement de la wilaya d'Alger. Donc, on contribue à des floralies, à des campagnes de reboisement, y compris avec la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger. Donc, au préalable, on fait le choix des espèces, on donne les bons conseils. En gros, sur la majorité des arbres qui sont tombés, c'est quoi? Rien de travail à faire là-dessus. C'est les anciens eucalyptus.
D'accord.
C'est les eucalyptus géants. Donc déjà là...
Quand on sait aussi que l'eucalyptus n'est pas vraiment nécessaire.
Et n'est pas vraiment nécessaire, surtout dans le milieu urbain.
Il pompe beaucoup d'eau.
Les eucalyptus, c'est des pompes d'eau.
Exactement.
Avant, dans les années 70...
Non, mais il faut dire que c'est des arbres qui sont destinés pour l'Australie.
C'était contre les zones marécageuses.
On peut vivre sans. Donc si on peut s'en débarrasser, c'est encore mieux.
Donc c'est-à-dire, au moins, c'est-à-dire pas l'enlever carrément. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des réflexes.
D'accord.
Quand on voit, par exemple, des sujets...
Là, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il va falloir favoriser?
Des couronnements, carrément. Des couronnements, c'est-à-dire ne pas laisser à 30 30 mètres à 40 mètres. Mm-hmm. On peut couronner et on a la paix pour 5 ans.
Et que choisir comme plant si on a envie de planter à proximité, dans son quartier, dans sa maison?
Ça dépend, il y a pas mal d'espèces. Hein. Ça, il y a pas mal d'espèces.
Cyprès,
par exemple, que ce soit des arbres persistants, feuilles persistantes, mm-hmm. que ce soit des arbres caduques. Mm-hmm. Donc, prendre les bonnes espèces.
Mm-hmm. Et poser la question aux spécialistes.
Oui,
c'est
ça
bien
dépend,
aussi de poser des questions.
C'est stationnel. Mm-hmm. Par exemple, il y a plusieurs paramètres qui rentrent dedans. Mm-hmm. La situation exacte de lieu de plantation, mm-hmm. l'environnement direct, mm-hmm. est-ce que sur un terrain incliné, plat, mm-hmm. est-ce qu'il ne va pas y
c'est
avoir
c'est important quand c'est incliné, justement, mais on va favoriser
sûr,
l'inclinaison encore davantage.
L'inclinaison, donc prendre des
donc
espèces
on risque
qui
de
sont,
le voir tomber plus tard.
Qui gardent mm-hmm. un petit peu leur plasticité, même mm-hmm. par rapport au vent. C'est-à-dire ne pas prendre des espèces fragiles mm-hmm. Qui peuvent y aller, qui sont déjà vulnérables à 30-40 km à l'heure.
On a des pépinières un petit peu partout, vous pouvez aller poser la question et avoir des informations pour planter chez vous. Où vous appelez? Vous avez des un numéro vert?
Numéro vert, non. Donc, il y a on a le site.
On peut appeler le Déval.
On a le site web.
Site web.
On travaille directement avec les gens via le site web.
Envoyer,
on a une plateforme, bien sûr.
Très bien. Un message.
Et on est contacté
on
tout le temps pour conseil.
De votre part,
il y a d'ailleurs même des particuliers, des familles, des organes qui viennent carrément nous rendre visite et demander le conseil sur place, in situ. Ça pose
merci
pas
beaucoup,
problème.
M. Yacoub. Extranet. C'est très, très important. Ramadan arrive en quelques secondes. Si on devait donner des conseils, on va profiter un petit peu de votre passage avec nous.
Il n'y a pas de problème. Donc, le mois de Ramadan est un moment de piété. Mais aussi, c'est là que nous voyons que le pic du gaspillage, le taux est de 15 à 20% par rapport à l'augmentation globale. Donc, essayer d'acheter...
ce qu'il faut,
ce qu'il faut, surtout en ce qui concerne le pain. Nous remarquons qu'il y a une hausse de gaspillage de pain, donc acheter quelques baguettes, une à deux. Donc,
surtout le pain, les amis, c'est incroyable. On gaspille des millions et des millions de baguettes, faites attention.
Donc nous, par rapport à l'aspect, toujours je reviens à l'aspect de sensibilisation, les prévisions, et on va faire en moyenne 363 actions de terrain en ce qui concerne le Ramadan, avec les sorties pédagogiques avec les enfants, avec les écoles, le porte-à-porte avec les ménagères, les Aswaq al-Rahma. Donc on va essayer de faire, c'est plus une opération de matraquage, on va répéter toujours le même message.
Faites attention
avec des images. On va distribuer des carnets de recettes gratuitement pour les ménagères pour avoir une autre alternative par rapport au pain.
Voilà. Oui, il y a tout ce qu'il faut,
il y a toutes les recettes.
Justement, pendant le Ramadan, vous allez revenir avec nous et on va donner un maximum d'informations. Quelques secondes. Capitaine Benham Zalzoher.
Alors, ce que je peux dire, qu'on est à la. Ça reste. Le Ramadan, c'est important de toujours respecter les consignes de sécurité, notamment en matière de conduite. La conduite en Ramadan, il faut faire très attention.
Aussi
les accidents domestiques, notamment le monoxyde de carbone. Reste un fléau, malheureusement. Les chiffres sont...
Mais par rapport aux intempéries, il faut rester vigilant.
Oui.
Ça continue
il faut faire attention. La vigilance, c'est important.
Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et répondre à nos questions. Merci à Hakim Ben Moussa, qui est à la réalisation. Merci à Morad, à la console technique. Yassine est au streaming. Et bien sûr, le grand Tahar à la régie d'antenne. Sarah est là. Ben, vous allez la retrouver juste après le flash de 11h. Je vous donne rendez-vous demain, le Hinal Bimam, même station, à partir de 10h sur Alger Chaîne 3 dans Service Public. Au revoir.